France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Il s'était exprimé avec une telle vigueur à l'annonce des résultats électoraux en février dernier qu'on le croyait déjà aux affaires. En fait, Friedrich Merz, le nouveau chancelier d'Allemagne, ne sera investi que mardi prochain à la tête d'une nouvelle coalition entre son parti chrétien-démocrate et les socialistes du SPD. Son premier déplacement officiel aura lieu dès mercredi, le 7 mai, à Paris, où il participera le lendemain aux cérémonies du 80e anniversaire de la victoire alliée sur le régime nazi. Un double gage du rapprochement qui se confirme entre l'Allemagne et la France au moment où le sort de l'Ukraine, l'imprévisibilité de Donald Trump, les tensions transatlantiques, les négociations douanières avec Washington obscurcissent l'horizon commun. Emmanuel Macron, qui s'apprête à signer avec le Premier ministre polonais un nouveau traité d'amitié, trouve-t-il enfin un attelage capable d'entraîner l'Europe vers plus d'autonomie ? Berlin est le premier soutien de Kiev sur le plan militaire. Le chancelier livrera-t-il, comme annoncé, les fameux missiles Taurus ? Les énormes investissements prévus grâce au déblocage du frein à la dette iront-ils ou pas dans le sens d'une meilleure convergence des dépenses militaires en Europe ? L'espoir du nouvel élan annoncé par Friedrich Merz risque d'être rapidement tempéré par la réalité de la situation intérieure dont hérite son gouvernement. Une économie en récession pour la troisième année consécutive, les piliers traditionnels de son industrie, automobile et chimie, fortement fragilisés par leur dépendance aux marchés américains et chinois, des tensions sociales qui s'aggravent et au Parlement, un parti d'opposition en plein essor, l'AFD, le mouvement d'extrême droite, qui vient hier d'être qualifié par l'Office de protection de la Constitution comme étant contraire aux valeurs démocratiques fondamentales. C'est de la tyrannie déguisée, s'est aussitôt écrié le secrétaire d'État américain. Un nouveau mur de Berlin dénonce de son côté le vice-président J.D. Vance, qui décidément préfère l'extrême droite au parti traditionnel. Où en sont donc les relations autrefois si étroites entre Berlin et Washington ? Que faut-il attendre pour l'Europe de la nouvelle équipe au pouvoir ? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Daniela Schwarzer. Vous êtes membre du directoire de la Fondation Bertelsmann et du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. Marie Crépata, chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI, merci d'être avec nous. Paul Maurice, vous êtes-vous le secrétaire général de ce même CERFA à l'IFRI ? Et j'accueille avec plaisir Martin Baloge, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille. Daniela, le chancelier a proclamé « L'Allemagne est de retour ». Qui est donc cet homme de 69 ans, dont la carrière, c'est le moins qu'on puisse dire, a été plutôt en dents de scie, et en fait qui n'a aucune expérience gouvernementale?
Oui, ça c'est vrai. Alors, il a une longue expérience en tant que parlementaire qui a commencé vers la fin des années 80 du siècle dernier. Il est entré au Parlement européen. Il est resté jusqu'en 1994, et après il est rentré au Bundestag, c'est-à-dire au Parlement allemand. Et là, il a fait une longue carrière jusqu'à l'année 2009, où il a quitté le Parlement pour s'occuper plutôt de sa profession principale, il est juriste, donc il a travaillé en tant qu'avocat, notamment parce que entre lui et la chancelière Merkel, ça ne marchait plus du tout. Et lui, depuis, il a songé à retourner dans la vie politique active, ce qu'il a fait il y a quelques années, et il était le leader de l'opposition pendant les 4 dernières années. Il est devenu président du parti chrétien-démocrate. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu vraiment le moment de sa vie politique parce que, évidemment, il avait une grande ambition de devenir chancelier. Et il apporte beaucoup de choses. Il apporte une expérience européenne, il apporte une expérience en tant que professionnel juriste avocat, et puis il a aussi été chairman non exécutif de BlackRock en Allemagne, c'est-à-dire un fonds d'investissement américain. C'est pour ça qu'il a beaucoup appris sur les affaires, notamment financières, mais aussi la relation transatlantique. Il a expérimenté d'une manière active, professionnelle. Puis, pendant une certaine période, il était aussi président d'une association qui s'appelle Pont Transatlantique, c'est-à-dire c'est une association qui s'engage pour les relations entre l'Allemagne et les États-Unis. Et c'est peut-être pour cela, avec cette carrière à la fois internationale, européenne et nationale, qu'il a beaucoup parlé des affaires internationales et européennes pendant la campagne électorale et aussi depuis l'élection. Et depuis qu'il prépare son gouvernement.
Justement, un gouvernement. Alors, évidemment, on avait été surpris, étant donné ce parcours, cette filiation transatlantique que vous nous rappelez, Daniela. Et donc, évidemment, face à l'administration Trump 2, il a carrément déclaré qu'il fallait que l'Europe se détache des États-Unis. Comment est composée et caractérisée l'équipe dont il s'est entouré au gouvernement après avoir conclu un pacte avec le SPD, donc les sociaux-démocrates qui étaient à la manœuvre jusqu'à aujourd'hui encore, en fait, jusqu'à mardi?
Oui. Alors, d'abord, je pense que c'est très important de voir les nuances dans ce qu'il dit sur la relation transatlantique. Déjà pendant la campagne électorale et le soir même de l'élection, il a dit très clairement que la relation transatlantique a changé. Mais il n'y a aucune naïveté dans ses propos par rapport aux besoins de l'Europe et de l'Allemagne de garder un lien étroit pour le moment avec les États-Unis en matière de défense et de sécurité. Donc, la manière dont je vois ces propos sur la relation transatlantique, c'est porté par beaucoup de réalisme. Et en même temps, il ne fait pas le saut tout de suite vers le concept de l'autonomie stratégique européenne ou autre. Il dit très clairement qu'il y a une nouvelle phase dans la relation, mais pour protéger l'Europe, au moins pour une période de transition, il faut rester proche des États-Unis. Je pense que c'est important de comprendre cette vision de la relation et aussi de la transition de cette relation, parce que, évidemment, sa première visite aux États-Unis est très attendue et, à mon avis, il va essayer de calmer le jeu qui actuellement est évidemment très, très chaud parce que Trump a annoncé des douanes très, très lourdes sur l'Europe notamment et l'Allemagne va être très touchée par cela. Mais, à mon avis, il va renforcer la coopération européenne sans tourner le dos vers les États-Unis pour le moment. Alors, pour l'équipe, il va travailler avec un ministre des Affaires étrangères qui est un parlementaire qui, pendant vraiment beaucoup d'années, a travaillé sur les affaires étrangères, qui était le vice-président du groupe parlementaire de la CDU des chrétiens démocrates, donc responsable pour les affaires internationales, qui a été très clair, notamment sur l'importance de soutenir l'Ukraine, très critique de la Russie, très ancré dans sa réflexion que l'Europe compte beaucoup pour l'Allemagne. Et donc, je pense là, on aura une bonne coopération entre le ministère des Affaires étrangères et la chancellerie. Et notamment, il y aura une innovation institutionnelle. L'Allemagne aura, pour la première fois, un Conseil national de sécurité qui va essayer d'apporter une vision stratégique à tout le gouvernement avec une analyse des risques et des défis à la fois en matière de sécurité, mais beaucoup plus large que la défense, aussi en matière d'économie financière et puis sécurité humaine et intérieure aussi. Et donc, ça peut changer la capacité de l'Allemagne d'analyser d'une manière stratégique les défis internationaux et de jouer un rôle plus important si le gouvernement arrive vraiment à réunir tous les ministères autour de cette vision commune, parce qu'une chose ne changera pas, c'est une autonomie. Si on compare l'autonomie des ministères individuels aux ministères dans d'autres pays, il y a quand même un rôle très fort de chaque ministre. Et donc, ce Conseil de sécurité peut apporter un débat, un dialogue, une vision stratégique commune, mais ne va pas limiter l'autonomie de chaque ministre ministre au sein du gouvernement.
Martin Baloge, ce qui est évident, c'est que ce gouvernement, donc un gouvernement de coalition, comme c'est la tradition en Allemagne fédérale, c'est un gouvernement plutôt fragile, avec des sondages déjà en baisse.
Effectivement, il y a plusieurs choses à dire sur ce point. En fait, Friedrich Merz ne va pas profiter d'une période où il va pouvoir profiter en fait de l'élan. Ouais, c'est exactement le terme, d'un état de grâce, comme on en parle souvent en France, puisque on l'a dit, il hérite d'un contexte économique extrêmement difficile et une grande partie de son programme politique qui était annoncé pendant la campagne reposait sur une reprise de la croissance pour être réalisable. Donc déjà de ce point de vue-là, bon, ça semble compliqué à court et moyen terme. Et puis, ça, je pense que c'est extrêmement important aussi. Effectivement, il bénéficie d'un faible soutien. Quand je dis un faible soutien, c'est qu'en fait, on parle effectivement d'une grande coalition, hein, parce que c'est les deux grands partis historiques, le SPD, la CDU, CSU. En fait, il y a trois partis dans cette grande coalition. Mais c'est une petite grande coalition au sens où la CDU a fait son deuxième score le plus faible depuis 1949. Le SPD a fait son score le plus faible sur la même période. Et donc, en fait, on a une grande coalition, mais qui représente finalement assez faiblement l'ensemble des Allemands. Donc, de ce point de vue-là, la légitimité strictement électorale, hein, par le droit, elle est reconnue, mais politiquement, elle est relativement faible. On l'a dit aussi.
Et ce qui complique les choses, Martin, c'est que une véritable bombe politique a explosé hier, quand l'Office de protection de la Constitution a déclaré que le parti qui a fait le score véritablement le plus surprenant et très élevé aux dernières législatives, c'est-à-dire le parti d'extrême droite, l'AFD, est une menace pour les valeurs démocratiques allemandes.
Oui, tout à fait. Alors ça, effectivement, ça vient rajouter une surcouche, en fait. C'est ce dont on parle, évidemment, en Allemagne, continuellement, là, depuis hier, parce que ça soulève tout un ensemble d'enjeux, à la fois, d'ailleurs, à l'échelle nationale, mais même internationale, hein, J.D. Vance, vous l'avez dit, s'est prononcé déjà sur cette question. C'est à la fois, c'est pas très étonnant, en fait, à mon sens, hein, que l'Office de protection de la Constitution ait décidé de classer l'AFD comme parti d'extrême droite. C'est pas très étonnant parce que, d'une part, c'était déjà le cas à l'échelle régionale, hein, dans des Länder de l'Est, et on sait que c'est à l'Est que, en particulier sous l'impulsion de Björn Höcke, qui est la figure en fait majeure de l'aile droite de l'AFD, qui a été condamnée entre autres pour avoir utilisé des slogans nazis en meeting. L'AFD à l'échelle régionale à l'Est était déjà placée sous surveillance de l'Office de protection de la Constitution et était déjà reconnue comme parti d'extrême droite. Cette fois, c'est à l'échelle fédérale, c'est tout le parti. Donc ça, effectivement, ça change à la fois beaucoup de choses et en même temps, à court terme, pas tant que ça, parce que le travail parlementaire, par exemple, ne devrait pas forcément être directement impacté. C'est-à-dire qu'on ne va pas interdire le parti dans le mois, voire ni même dans l'année, d'ailleurs. Bon.
Mais donc, pratiquement, ça veut dire que les élus AFD peuvent être placés sous surveillance. Il peut y avoir des écoutes téléphoniques tout à fait légales. Et ce qui a quand même sidéré, il faut bien le dire, c'est la réaction venue de Washington, puisque le secrétaire d'État Marco Rubio a simplement dit « il s'agit d'une tyrannie déguisée ». Il faut que le gouvernement allemand fasse marche arrière, a-t-il dit. Et J.D. Vance, on se souvient du vice-président américain qui avait sidéré les Européens à la conférence de sécurité de Munich en février dernier. Et lui, il a tout simplement dit c'est un nouveau mur de Berlin. Martin.
Ouais, bon, ils ont tout faux, hein. Ils ont tout faux au sens où c'est pas le gouvernement qui classe l'AFD comme parti d'extrême droite. On l'a dit, c'est l'Office de protection de la Constitution qui a mené un travail extrêmement long sur plusieurs mois, sur plusieurs années même, dans un rapport de plus de 1000 pages, donc extrêmement détaillé. Et ça a été fait indépendamment même, en fait, de l'autorité politique du ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, l'actuel ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, mais qui est en poste encore pour quelques jours, ne s'est pas prononcée pour une interdiction tout de suite de l'AFD. Elle a dit au contraire qu'il fallait maintenant prendre le temps de mesurer le pour et le contre. Et là où il y a vraiment quelque chose de... Il y a un renversement de l'histoire, en fait, hein, dans les réactions de J.D. Vance en particulier, c'est que l'Allemagne, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est un pays qui est vaincu, qui a connu et qui a commis des atrocités, qu'il faut reconstruire démocratiquement. Et entre autres, tout l'attelage constitutionnel allemand, il est en partie, hein, élaboré sous l'œil des puissances qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, dont les États-Unis. Et le but, c'est précisément d'empêcher le retour d'autoritarisme, et en particulier donc d'autoritarisme d'extrême droite. Ce que dit du coup J.D. Vance, c'est en fait ne pas comprendre ce que ce prédécesseur, d'ailleurs, je pense, défendait. C'est l'idée qui est très importante en Allemagne, d'une démocratie militante et combattante. C'est-à-dire qu'on combat les ennemis de la démocratie, on combat les ennemis de la Constitution. Et on le fait par des moyens légaux, hein, c'est-à-dire on utilise la Constitution pour protéger la Constitution. Donc de ce point de vue-là, mais c'est pas très étonnant, hein, venant en ce moment des États-Unis, vu ce qui s'y passe, c'est nier complètement le fonctionnement de l'État de droit, et comprendre même, en fait, je pense, ou en tout cas... montrer qu'on ne veut pas comprendre les subtilités de l'état de droit en Allemagne et la façon dont on se protège contre l'extrême droite, qui effectivement a été reconnue comme portant atteinte à la dignité humaine, fragilisant et menaçant l'ordre démocratique, mais même au-delà de ça, hein, l'AFD a des relations avec des mouvements néo-nazis violents, certains de ses militants sont proches de groupes qui ont essayé de fomenter des coups d'État. Bref, c'est une menace qui est sérieuse et qui vient également briser toute cette culture du compromis qu'on a connue en Allemagne depuis 1949. Mais encore une fois, on est loin d'une interdiction. Donc expliquer que là, il y a tout de suite un déni de démocratie, c'est très clairement faire fausse route.
Paul Maurice, dans un tel climat entre Berlin et Washington, est-ce que on peut imaginer que ce sera un accélérateur, en quelque sorte, de ce rapprochement affiché comme une priorité par le nouveau chancelier allemand, ce rapprochement entre Berlin et Paris?
Oui, effectivement, et pour rebondir sur ce qu'a dit Daniela Schwarzer, il y a quelque chose de très transatlantique dans la culture politique de Friedrich Merz, mais c'est aussi lié à son héritage politique, puisque Friedrich Merz, vous avez rappelé son âge, 69 ans, c'est l'héritier de la CDU d'avant la réunification, ou de juste après la réunification, c'est-à-dire d'une démocratie chrétienne allemande qui avait pour objectif de s'intégrer à l'Ouest. C'était le terme porté par Konrad Adenauer, le premier chancelier de la République fédérale. Et dans l'intégration à l'Ouest, bien sûr, les États-Unis jouent un rôle fondamental. Martin Baloge l'a rappelé en termes constitutionnels, mais ça infuse dans tous les secteurs de la société, dans la culture, dans la culture politique, dans les médias, etc. Et tout ceci était très important. Mais en parallèle, Konrad Adenauer avait construit une relation franco-allemande au service de l'Europe. Et tout ceci fonctionnait parce que ça avait pour objectif de redonner à l'Allemagne sa souveraineté, ce qu'elle a retrouvé en 1955, lorsqu'elle est entrée dans l'OTAN notamment. Et donc Friedrich Merz, comme catholique rhénan, c'est l'héritier de tout ça, c'est l'héritier d'Helmut Kohl, c'est l'héritier de Wolfgang Schäuble, c'est-à-dire quelqu'un qui a intégré la relation franco-allemande comme nécessaire, pas suffisante bien sûr, mais comme nécessaire pour la politique étrangère de l'Allemagne et aussi pour le développement de la politique européenne. Daniela Schwarzer a rappelé son mandat au Parlement européen, qui était son premier mandat et qui l'a marqué. Alors maintenant, la question est celle de l'équilibre de ces relations. À quel moment la France va-t-elle pouvoir se présenter comme une alternative dans la politique étrangère allemande à ce que les États-Unis représentaient ? Daniela Schwarzer était dubitative, je le suis aussi en partie, parce que ce que proposent les États-Unis à l'Allemagne en termes de sécurité, la France ne peut pas le faire. Mais on voit que le débat a été ouvert, et il a été ouvert par Friedrich Merz. Le débat sur la dissuasion stratégique, la dissuasion nucléaire notamment, c'est Friedrich Merz qui l'a ouvert. Et Johann Wadephul, qui va être ministre des Affaires étrangères, comme l'a rappelé Daniela Schwarzer, avait aussi, en 2020, demandé à une protection française sur l'ensemble de l'Europe. Donc il y a une demande très forte sur ces questions-là. Et puis, sur les questions de compétitivité, on va sûrement y revenir, il y a aussi une demande de rapprochement à un moment où l'économie allemande n'est pas forcément au beau fixe. Donc, la France représente pour Friedrich Merz un pion essentiel dans cette relation transatlantique. Maintenant, est-ce que tout ceci peut remplacer ? Non, parce qu'il faut aussi rappeler la situation politique intérieure française qui, depuis des années, provoque des questions en Allemagne sur la trajectoire budgétaire française et puis sur ce qui se passe aussi, Martin Balloge l'a rappelé, en Allemagne mais aussi partout en Europe, sur la montée de l'extrême droite et la crainte en Allemagne de voir arriver une personnalité d'extrême droite au pouvoir en 2027. Et donc, sur ces deux ans qu'il reste à Emmanuel Macron, certes, Friedrich Merz veut aller vite, il veut montrer des signes forts, il veut vraiment jouer le jeu du franco-allemand, mais il ne faut pas non plus s'attendre à une grande révolution franco-allemande. De manière générale, il ne faut pas s'attendre au grand soir franco-allemand, quel qu'il soit. D'une autre perspective, les attentes sont assez fortes aussi à l'échelle européenne, non seulement de la France bien sûr, mais d'autres pays européens, puisqu'on attend à un moment où l'Allemagne était très attentiste sur les questions européennes, on attend un leadership allemand. C'est toujours pareil, quand il n'y a pas de leadership allemand, on le regrette, quand il y en a trop, on le dénonce, mais oui, on attend cette impulsion allemande avec la France pour répondre à tous ces défis, et puis ces défis qui changent du jour au jour en fonction des réactions des différentes personnes de l'administration Trump.
Avant d'en venir aux priorités qui pourraient être communes entre Paris et Berlin s'agissant de l'Union européenne en tant que telle, Marie Krepata, expliquez-nous l'état de la première économie d'Europe, l'économie allemande. Là, j'ai vu les chiffres hier, il semblerait qu'il y ait une timide sortie de la récession qui frappe cette économie depuis plus de deux ans maintenant. Le premier trimestre 2025 affiche un taux de croissance de 0,2%, donc c'est mieux que pas. Néanmoins, ça va pas bien.
Oui, effectivement. Donc, vous l'avez rappelé, on est dans une période de récession. Donc, l'an dernier, c'était la deuxième année de récession consécutive. On a un recul des investissements sur les cinq dernières années. On a un recul de la production industrielle également depuis 2018. On a des industries énergivores qui sont tout particulièrement impactées par les effets de la guerre en Ukraine et la hausse des coûts énergétiques. Et donc, ça trouble la compétitivité de la base industrielle allemande. On a également un secteur industriel qui a fait la fierté de l'Allemagne, qui aujourd'hui est à la peine, le secteur automobile. Et donc, effectivement, les constructeurs automobiles allemands, les équipementiers allemands, l'an dernier notamment, au mois de novembre, avaient annoncé la fermeture d'un certain nombre d'usines et également le licenciement de dizaines de milliers de personnes. Donc, effectivement, tout ceci
est... A commencer par Volkswagen, ce qui est très, très symbolique dans l'imaginaire et la
absolument
réalité
de qui est ancré en Basse-Saxe, donc il y a un ancrage territorial en plus de cela. Alors, le secteur de l'automobile, c'est 800 000 personnes qui travaillent dans ce secteur de manière directe. Et puis, il y a aussi des emplois indirects. Donc, au-delà des constructeurs automobiles, c'est aussi les équipementiers, ces chefs-là, par exemple, ces Bosch. Donc, il y a tout un tissu industriel qui est lié à cette industrie-là. Donc, on se souvient qu'en août 2023, l'hebdomadaire britannique titré « Est-ce que l'Allemagne est à nouveau l'homme malade de l'Europe ?»
Et donc vous l'avez... The Economist, oui.
Exactement, l'hebdomadaire britannique The Economist titrait cela. Et donc, effectivement, la question aujourd'hui, c'est quelles sont les raisons structurelles et conjoncturelles de cette faiblesse. Vous l'avez rappelé, c'est la première locomotive économique européenne, donc tous les yeux sont rivés sur l'Allemagne. Donc, effectivement, on a un sous-investissement dans les infrastructures en Allemagne, un sous-investissement dans les infrastructures de télécommunications, de transport, dans les hôpitaux, dans les écoles. On a aussi une question relative à la démographie et un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, l'Allemagne s'est dotée en 2023 d'une loi sur l'immigration qualifiée pour essayer de mettre en adéquation les besoins sur le marché du travail allemand et la volonté d'immigrer, de venir travailler en Allemagne. On a aussi une question autour de la capacité d'innovation de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne à un modèle économique qui a très bien fonctionné au cours des dernières décennies et avec des industries qui ont été très fortes, mais c'est aussi des industries vieillissantes. Et vous parliez de l'industrie automobile. Donc, il y a une spécialisation dans le véhicule thermique, mais on n'a peut-être pas assez anticipé le passage au véhicule électrique et on n'a peut-être pas assez anticipé aussi la part du numérique dans l'industrie automobile. Et donc, il y a des business models qui sont rigides et une difficulté de s'adapter à de nouvelles attentes sur le marché et aux demandes des consommateurs, là où d'autres acteurs maintenant, comme BYD ou Tesla, raflent la mise et risquent de remplacer, de déclasser les constructeurs comme Volkswagen, BMW et Mercedes, par exemple. Et
même on se si Tesla aussi, a plutôt mauvaise mine
même si en
Europe,
ce moment,
en
Tesla, effectivement, est aussi dans une situation compliquée.
Et pour d'autres raisons.
Oui.
Et donc Daniela Schwarzer, pardon, oui. Marie, je vous interromps parce que on sait que Friedrich Merz avait utilisé le Parlement précédent avant donc d'entrer officiellement aux affaires, ça aura lieu mardi prochain, pour libérer le système allemand de ce qu'on appelait le frein à la dette, c'est-à-dire la possibilité d'accroître le déficit budgétaire. Et là, Daniela, les sommes que le nouveau gouvernement s'apprête à engager pour véritablement améliorer les infrastructures, mais aussi et surtout la défense allemande, ces sommes sont véritablement considérables. Comment est-ce que ça peut se traduire concrètement pour l'industrie de défense allemande et par voie de conséquence les efforts de convergence d'une défense européenne ou en tout cas de programmes d'investissement militaire qui seraient davantage convergents?
Alors, il a mis en place deux instruments. Le premier est un instrument d'investissement pour soutenir l'infrastructure, notamment transport, énergie, mais aussi éducation, recherche, innovation. Et ça, c'est un fonds de 500 milliards d'euros qui devrait être dépensé au plus tard après 12 ans. Donc, à mon avis, les grands investissements vont se faire au début de cette période. Et tout ça peut créer un contexte plus favorable aussi, évidemment, à l'industrie de défense. Ensuite, le deuxième instrument, c'est effectivement d'exclure des dépenses pour la défense du frein à l'endettement. Donc, cette règle constitutionnelle existe toujours, mais seulement une partie des dépenses pour la défense seront incluses dans le calcul du déficit qui va être soumise à ce frein à l'endettement. Ça veut dire pratiquement que l'Allemagne pourra augmenter ses dépenses en matière de défense sans limite constitutionnelle. Et comment est-ce que cet argent va être dépensé? À mon avis, là, il y a peu de clarté pour le moment. Évidemment, une partie doit être dépensée pour renforcer la Bundeswehr, donc l'armée allemande. Il y a beaucoup de besoins d'investissement. Mais en même temps, la question est comment est-ce que l'industrie en Allemagne, mais aussi en Europe, va profiter de ces investissements. Je pense que c'est une question clé. Et Friedrich Merz, heureusement, a dit qu'il va rendre visite à Emmanuel Macron et Donald Tusk très très tôt le même jour de son mandat. Et pour discuter notamment de ces questions, comment est-ce que une industrie européenne peut être renforcée, comment est-ce que des projets de défense puissent être développés. Et on connaît des exemples qui marchent bien en Europe, mais il y a aussi plein de projets qui traînent depuis des années.
Donc c'est et on voit aussi, Daniela, pardon Daniela, je vous interromps, on a vu l'annonce de Rheinmetall, qui est donc... Une très grosse entreprise allemande qui fabrique en particulier des blindés, l'annonce d'un accord entre Rheinmetall et Lockheed Martin, donc l'américain, pour fabriquer en Allemagne des missiles et des roquettes. Donc, comment dire, ce n'est pas véritablement une approche intra-européenne.
Non. Et c'est une, évidemment, c'est une décision d'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut être réaliste sur l'approche du nouveau gouvernement par rapport à l'importance de la relation transatlantique qui persiste. Mais en même temps, il y a plein de projets européens comme le FCAS et d'autres où l'Allemagne peut jouer un rôle plus important, notamment la question à débattre entre chefs de gouvernement et d'État au sein de l'Union européenne en ce moment, et la question si on met en place une stratégie d'industrie de défense commune. Et on a vu le rapport publié par le commissaire Kubilius sur cette question au mois de mars. Si on fait ça, quelle préférence va-t-on donner pour l'achat des produits européens, pour le rôle des pays tiers? Et à mon avis, c'est là où le dialogue franco-allemand sera très, très important, parce que traditionnellement, les réflexes de l'un côté du Rhin et de l'autre ne sont pas les mêmes. Il y a une préférence européenne très claire du côté de Paris, et en Allemagne, souvent la réponse, oui, l'Europe, mais aussi les États-Unis. Et c'est là où, à travers des projets très concrets, c'est très important que les partenaires européens, pas forcément tous les 27, plutôt des groupes de pays beaucoup plus petits, doivent apporter des réponses comment on peut renforcer l'industrie de défense européenne d'une manière à faire profiter les armées de tous les pays membres, parce qu'on n'aura pas une armée européenne pour au moins une certaine période. À mon avis, c'est très, très compliqué. C'est pas la question du jour. Mais la question est des coopérations très concrètes. Et je pense que l'Allemagne pourra jouer un rôle important, mais il faut pas se faire d'illusions. Le lien transatlantique va persister au moins pour un moment.
Est-ce que le chancelier et son gouvernement, le social-démocrate Pistorius, qui est devenu très populaire, est maintenu au ministère de la Défense, est-ce qu'ils vont livrer les taurus à l'Ukraine, Daniela?
C'est très difficile à dire. Merz, il a dit à un moment que oui. Depuis, on a plus entendu grand chose, et je pense que ça va être une décision compliquée pour lui. Et comme il ne peut plus coordonner cette décision avec les Américains, ce que Scholz a fait très régulièrement, il va peut-être chercher une coordination plus importante avec la France et les Britanniques et les Polonais. À mon avis, c'est cette relation-là qui va compter beaucoup plus. Mais ce qu'il a dit très clairement, lui, le ministre des Affaires étrangères et aussi le très probable futur ministre de Défense, ils ont tous dit qu'ils vont soutenir l'Ukraine d'une manière, pour remplacer au moins en partie ce que les Américains ont fait. Et il y a une forte reconnaissance auprès des deux parties que l'évolution de la guerre et le rôle de la Russie sur le continent est une question essentielle, non seulement pour l'Ukraine et ses voisins, mais aussi pour toute l'Union européenne. Donc, je suis assez convaincue que Merz et son nouveau gouvernement va faire ce qui est nécessaire pour soutenir l'Ukraine dans sa défense.
Martin Baloge, c'est là où l'on retrouve évidemment le poids que pèse désormais l'AFD, le parti d'extrême droite, au sein même du système parlementaire allemand, qui est autrement vigoureux, on peut le dire, que le nôtre. Et bien évidemment, l'AFD est ouvertement anti-Ukraine, ouvertement pro-Poutine. Comment est-ce que ces rapports de force dans le jeu parlementaire va pouvoir soutenir ou au contraire entraver l'action du nouveau gouvernement?
Alors, on l'a dit, l'AFD a fait un score historique, hein, historique pour un parti d'extrême droite depuis 1949. Elle a pas seule, hein, elle a pas la force de frappe suffisante pour bloquer toute l'action, évidemment, du gouvernement et de la grande coalition. Vous l'avez dit, l'Allemagne, c'est un régime qui fonctionne par un système de compromis, hein, qui est vraiment ancré dans la culture allemande. Ce qui est à la fois, à mon sens, une réelle force, évidemment, mais pour Friedrich Merz, ça va aussi être certainement une faiblesse, hein, dans le contexte actuel, parce que la campagne qui vient de se dérouler, c'est une des campagnes, si ce n'est la campagne, la plus polarisée, la plus radicale qu'on ait vécue, en tout cas depuis des années, certainement depuis des décennies. Et cette polarisation, maintenant, elle doit laisser place au Parlement, au compromis. Et le problème, c'est qu'en jouant le jeu du compromis, en fait, l'AFD va en profiter. L'AFD va, et elle commence à le faire déjà, alors même que, à proprement parler, la législature n'a pas complètement commencé, elle pointe déjà les cartels, le parti des cartels, ce que, à une époque, par exemple, en France, le FN ou le RN appelait l'UMPS, par exemple. Bon. Donc, de ce point de vue-là, je m'attends pas à un Bundestag à l'arrêt, hein, parce que la grande coalition a une majorité qui est pas énorme, hein. Il faudra bien convaincre tout le monde dans ses rangs dès que des sujets un peu épineux vont être votés, mais il y a aussi une forme de fait majoritaire en Allemagne. Mais par contre, là où l'AFD, en fait, à mon avis, va jouer un rôle, c'est que ça va toujours être le poil à gratter, et pendant toute la législature et pendant tout le mandat de Friedrich Merz, en fait, il va y avoir cette question: comment est-ce qu'on lutte contre l'AFD? Qu'est-ce qu'on fait contre un parti qui maintenant est installé dans le paysage politique allemand et qui en plus commence à réfléchir à 2029 et à comment exercer le pouvoir? Parce que ce qui caractérise...
Et on se souvient, Martin, que Friedrich Merz avait tenté une manœuvre qui avait été fort critiquée il y a quelques semaines, où il avait demandé le soutien de l'AFD pour une proposition de loi anti-immigrés, pour simplifier.
Oui, en fait, Friedrich Merz, pendant la campagne, a joué un jeu assez trouble, hein, ce qu'on appelle en Allemagne la Brandmauer, donc le pare-feu ou le cordon sanitaire en France, a à la fois été constamment affirmé et réaffirmé par Friedrich Merz, et effectivement, il n'a jamais été à proprement parler question que Friedrich Merz forme un gouvernement avec l'AFD, donc de ce point de vue-là, le cordon sanitaire tient, et en même temps, on voit qu'il se craquelle, très clairement, il s'est craquelé complètement. Il a même rompu pendant la campagne. Vous l'avez dit, hein, quand la CDU et Friedrich Merz a appelé en fait toutes les voix, y compris celle de l'AFD, à voter pour des résolutions afin de durcir les politiques migratoires. Et là, ça a été extrêmement critiqué, à la fois d'ailleurs même dans la CDU et évidemment par les autres partis du allemand. Et puis ce cordon sanitaire, il continue à s'affaiblir. Là, il y a une quinzaine de jours. En Allemagne, et toujours au Bundestag, à la suite des déclarations de Jens Spahn, qui est l'ancien ministre fédéral de la Santé, sur un sujet qui est très important du point de vue parlementaire, c'est la question de la présidence des commissions parlementaires. Le système politique allemand, comparé à la France, c'est vraiment un système parlementaire très fort. Le Bundestag est plus fort que notre Assemblée nationale. Et la question de savoir qui préside la vingtaine de commissions est une question clé. Bon. Jusqu'à présent, depuis 2018-2019, après que Stefan Brandner, qui était un député AFD qui présidait la commission des affaires juridiques, mais qui avait été écarté à la suite de déclarations antisémites, l'AFD ne dirige plus de commission parce que les autres partis l'écarte systématiquement. Alors que la tradition parlementaire, c'est que les partis d'opposition dirigent également, en particulier la commission du budget. Bon.
Et donc, on va voir ce qui se passe avec la mise en place non seulement du gouvernement, c'est dans les jours qui viennent, mais aussi, bien évidemment, la désignation de ces commissions parlementaires.
Exactement.
Marie Crépta, s'agissant de la politique d'immigration en Allemagne, qui est évidemment un sujet de plus en plus difficile à manier pour la coalition qui prend le pouvoir, on a vu qu'il s'agit de renforcer dès mardi prochain les contrôles au sein de l'État fédéral, donc d'un land à l'autre, et d'un renforcement aussi du contrôle aux frontières. Donc ça veut dire un durcissement évident en matière de politique d'immigration en Allemagne.
Oui, alors je pense que c'est ce qu'on vient de voir hein, aussi avec l'AFD, ce que Martin Baloge a évoqué. Donc on a eu au cours des derniers mois un certain nombre d'attentats ou d'attaques au couteau aussi, ce qui explique effectivement un durcissement de la CDU sur ces questions-là, et la CDU qui a essayé d'obtenir des voix aussi auprès des électeurs de l'AFD. Or on sait aussi que sous la coalition Feu Tricolore, avec donc Olaf Scholz, déjà il y a eu une politique de l'asile assez restrictive, et l'Allemagne a perdu son premier rang de demande d'asile, je crois, au profit de l'Espagne et de la France. Donc effectivement, on voit un certain nombre de pressions sur ces questions-là, mais au-delà de ça, je pense qu'on l'a évoqué, le contrat de coalition est le fruit de compromis de la CDU, de CSU et du SPD. Donc il y a différents sujets sur lesquels les uns et les autres ont pu s'imposer sur la question sociale. Donc c'est évidemment le sujet qui est proche du SPD et que défend le SPD. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont pu être défendues par le SPD, comme le fait de porter le salaire minimum à 15 euros de l'heure. Donc il y a une commission sur le salaire minimum qui en décidera en 2026. Il y a la retraite des maires, il y a l'indemnisation kilométrique, il y a également sur les questions relatives au logement un certain nombre de mesures qui sont favorables donc aux logements sociaux. Donc voilà un certain nombre de sujets sur lesquels le SPD a su s'imposer, parce qu'effectivement il y a toute une question sur le pouvoir d'achat et la question, évidemment aussi avec les différentes vagues d'immigration qu'il y a eu en Allemagne. Donc on se souvient de 2015, hein, le Wirtschaftsdas de Angela Merkel, mais on se souvient aussi, après le début de la guerre en Ukraine, 1,5 million d'Ukrainiens qui sont venus en Allemagne, et donc se pose la question de comment absorber cette population-là, comment l'intégrer sur le marché du travail. Et donc on a une CDU qui porte plutôt une politique de l'offre par rapport à l'économie, là où le SPD va incarner une politique plutôt sociale. Et on voit que sur la question des prestations sociales, donc le fameux Bürgergeld, il sera supprimé au profit donc de la Grundsicherung, et donc effectivement ces prestations sociales, elles vont être bénéfiques à un certain nombre de personnes qui vont chercher de l'emploi. Elles devront montrer patte blanche et montrer qu'elles ont effectivement fait les démarches nécessaires pour trouver un emploi et qu'elles ont répondu aux propositions d'emploi qui leur sont faites.
Donc voilà, un durcissement des allocations chômage. Absolument. Et une incitation à travailler davantage.
Exactement, une incitation à travailler davantage. D'ailleurs, le CDU a su faire passer un certain nombre de mesures comme la défiscalisation des heures supplémentaires, mais également favoriser l'emploi des seniors, donc également défiscaliser les salaires de moins de 2000 euros en la matière. Par ailleurs, donc une diminution de l'impôt sur les sociétés à partir de 2028, le fait de ne pas créer de nouveaux impôts, mais aussi un choc de simplification. On sait que quand on a lu les rapports d'Enrico Letta et de Mario Draghi, une des préconisations qui en ressort, c'est un choc de simplification, réduire la bureaucratie, la technocratie. Et donc là-dessus, le Lieferkettengesetz, donc la loi sur le devoir de vigilance, qui suppose que des entreprises fassent des reportings sur les standards environnementaux et les standards sociaux dans les chaînes d'approvisionnement, cette loi sera supprimée. Donc on voit effectivement que ce contrat de coalition est un compromis entre la CDU-CSU, plutôt en soutien des entreprises et de l'économie, et le SPD avec des mesures sociales qui importent à l'électorat du SPD.
Paul Maurice, voilà qui nous ramène aux priorités du prochain gouvernement allemand s'agissant de l'Union européenne proprement dite. Et Maria vient de faire allusion aux deux rapports italiens de Mario Draghi et d'Enrico Letta. Est-ce que on peut imaginer que l'Allemagne serait à nouveau partisane d'une mutualisation de la dette en Europe, en particulier pour financer des efforts de défense européenne?
Alors, c'est une grande attente française, puisqu'on sait qu'en France, on a des difficultés à financer les choses, étant donné le déficit public et le niveau d'endettement. Et donc, il y a une volonté française, je caricature un peu, mais d'européaniser ces dépenses pour pouvoir rester un acteur de premier plan. Et puis, il y a eu une espérance française au moment où Friedrich Merz, pendant la campagne, au mois de janvier, en marge d'une réunion du Parti populaire européen, avait dit « on pourrait envisager une mutualisation des dettes pour les questions de défense si nous n'avons pas de solution nationale ». Donc on a un peu fantasmé ça à Paris en espérant que Friedrich Merz pourrait se montrer favorable. Néanmoins, quand on parle de politique européenne de l'Allemagne, il faut aussi voir la fusée à trois étages, c'est-à-dire l'étage national, l'étage européen qui est coincé en dessous d'un étage international. Et donc ici, c'est l'étage national qui joue. Ça a été rappelé par Daniela Schwarzer, la question de la réforme ou de l'évolution du frein à l'endettement avec ce fonds de 500 milliards sur 12 ans, avec la question de libérer le frein à l'endettement pour les dépenses de défense au-delà de 1%. Tout ça a créé des tensions en Allemagne, et on a vu à un moment, alors que Friedrich Merz n'était pas encore entré en fonction, l'AfD doubler ou talonner la CDU dans les sondages. Donc l'électorat chrétien-démocrate conservateur, qui était le cœur de campagne de Friedrich Merz, retour à un électorat conservateur, à une politique conservatrice et libérale de la CDU, a été déçu par cette réforme. Et donc, si en plus il ajoutait une mutualisation des dettes à l'échelle européenne, pour laquelle la CDU n'est pas favorable, c'est-à-dire qu'elle va répéter ce qu'elle avait dit au moment de la crise grecque et puis en partie pendant la crise Covid, avant le Next Generation EU, c'est que l'Allemagne va payer pour les autres. Et donc, on va avoir des tensions nationales qui vont, je pense, limiter Friedrich Merz sur ces questions-là. Sur la question de la livraison des armes qui a été évoquée, des Taurus, en fait, il y a des tensions aussi nationales sur la question de ces livraisons des Taurus au sein de la coalition elle-même. Alors Lars Klingbeil, qui a été élu chef du groupe parlementaire, qui sera sûrement vice-chancelier et ministre des Finances dans la semaine prochaine, avait pourtant un profil différent de son prédécesseur, Rolf Mützenich, qui était très pacifiste et complètement opposé à une politique, on va dire, belliciste, comme il l'a dénoncé vis-à-vis de l'Ukraine. Klingbeil est, lui, le fils d'un militaire, déjà, ça lui donne un profil différent, il appartient plutôt à l'aile droite du SPD, il était plutôt favorable. Néanmoins, dans une interview récemment, il a dit sur la question des Taurus, la position du SPD est connue. Donc il ne se prononce pas à titre personnel, mais il se réfère à son propre parti. Et au sein de la CDU, si certains vont très loin et veulent livrer les Taurus, le député Roderick Kiesewetter par exemple, d'autres, pour des raisons de politique intérieure, à la CSU de Söder, on a une volonté de ne pas aller trop vite parce qu'on sait qu'il y a un électorat d'extrême droite, comme l'a rappelé Martin Baloche, qui n'y est pas favorable et que cet électorat très conservateur pourrait être récupéré par la CDU. Donc, que faire à l'échelle européenne? C'est ce qu'a dit Daniela Schwarzer, à mon avis, qui est central. C'est la coopération dans le domaine de l'industrie de défense. Il n'y aura pas d'armée européenne. C'est à un moment crucial, qui arrivera peut-être dans une dans un futur idéal, mais pour le moment, il faut travailler. Et le rapport du commissaire européen est très concret sur la manière dont nous pouvons le faire. Et c'est ça que la France et l'Allemagne doivent faire. Bien sûr, c'est très bien que Friedrich Merz vienne à Paris la semaine prochaine et qu'il aille ensuite à Varsovie, mais il est déjà venu, en fait. Il a déjà commencé ce travail à l'échelle franco-allemande en discutant avec le président de la République, en venant à Paris juste après son élection, en le voyant à Berlin. Et donc, en fait, même si ce gouvernement, comme vous le rappeliez en introduction, on a l'impression qu'il est déjà là alors qu'il n'est pas encore là, il est déjà en partie au travail et les équipes sont déjà au travail. Néanmoins, il ne faut pas, je le répète, fantasmer une relance franco-allemande idéale qui arriverait avec Friedrich Merz. S'il est très dynamique, s'il est très volontaire, ce n'est pas, comme l'a rappelé Martin Baloge, un président de la République française. Il est contraint par des institutions qui sont celles de la République parlementaire, qui est la République fédérale d'Allemagne. Et donc, on attend aussi, malgré tout, et je terminerai là-dessus, à l'échelle européenne, sur une meilleure coordination de la politique nationale allemande. On a trop souffert, dans les 4 années dernières, d'un German vote, comme on le dit, à Bruxelles, qui était parfois décorrélé des décisions prises en bilatéral entre l'Allemagne et ses partenaires. On a une vraie attente d'une politique beaucoup plus cohérente sur les questions de politique étrangère, sur les questions de défense, enfin, d'industrie de défense, sur les questions d'industrie, de compétitivité, que l'Allemagne soit vraiment cohérente. Et je pense que le fait que, comme l'a rappelé Daniel Schwarzer, il y a un Conseil de sécurité nationale, que le ministère des Affaires étrangères revienne pour la première fois depuis 1966 à la CDU, on a une cohérence en tout cas de ce pôle européen international dirigé par la chancellerie, et on peut espérer que tout ceci va engager aussi la France pour être dans une politique du compromis, ce que Friedrich Merz semble vouloir. Il ne va pas tout résoudre, mais en tout cas quand on discute, quand on commence à discuter, déjà on a fait un très très grand pas.
Daniela, on est évidemment à un moment européen où on est confronté tous ensemble, puisque la politique commerciale est une compétence de la Commission de Bruxelles et non pas une compétence au niveau national. Donc, en principe, pas de négociation bilatérale entre tel et tel pays et Washington. Néanmoins, s'agissant d'une économie allemande dont Maria Krapata nous décrivait l'état, avec une dépendance au marché américain, mais aussi au marché chinois, beaucoup plus évidente étant donné la force de ces industries, comment est-ce que le nouveau gouvernement allemand va peser à Bruxelles sur la façon dont Ursula von der Leyen et ses commissaires affrontent la politique douanière de Donald Trump?
Alors, tout d'abord, il faut voir que vraiment l'Allemagne, avec ses problèmes économiques depuis 3 ans, regarde très près les relations transatlantiques et les relations avec la Chine. Et il y a souvent des doutes par rapport à la manière dont le gouvernement va gérer les relations avec Bruxelles, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le marché intérieur et l'euro sont quand même la base du succès économique à construire dans l'avenir. C'est-à-dire, si on parle compétitivité de l'Allemagne, il ne faut jamais oublier que l'Allemagne dépend beaucoup du marché intérieur et de la monnaie unique. Alors, à mon avis, pour l'approche vers Bruxelles, à la fois, il y a la question du commerce international et l'Allemagne aura un grand intérêt d'éviter que les tarifs que Trump a mentionnés pour l'Europe, et il les a mis en arrêt pendant 90 jours, que l'Union européenne trouve une manière de les réduire, parce que les niveaux qu'il avait évoqués vont beaucoup peser sur la compétitivité de l'Allemagne. Pour la Chine, c'est aussi un intérêt crucial de l'Allemagne que les relations de l'Union européenne avec la Chine soient renforcées d'un point de vue économique, tout en défendant les intérêts des Européens. C'est-à-dire avoir des conditions de compétition juste et équilibré entre les deux marchés, le marché européen et le marché chinois, ce qui n'est pas du tout le cas dans certains secteurs. Voilà, donc je pense avec cette dimension européenne, américaine et chinoise en tête, le nouveau gouvernement va essayer de jouer un rôle constructif. Le vote allemand a été évoqué, c'est-à-dire pendant la période du gouvernement dernier, il y avait beaucoup de moments où l'Allemagne a hésité ou même changé une position ce qui a causé beaucoup de problèmes avec les partenaires européens. Et Friedrich Merz a dit très clairement qu'il va essayer de coordonner l'approche du nouveau gouvernement vis-à-vis les négociations au sein de l'Union européenne à la chancellerie même, ce qui est aussi un deuxième changement important. Il y a une troisième chose qui est importante. Le gouvernement arrive avec une idée très claire de débureaucratisation, ce qui s'applique à la fois à l'Allemagne où les procédures sont souvent très lourdes, mais à mon avis, Friedrich Merz va aussi soutenir l'approche de Ursula von der Leyen pour soulager en partie la régulation européenne qui aujourd'hui pèse sur l'économie et d'essayer de faire en sorte que, à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, l'État puisse livrer ce que doit être fait en ce moment où l'Europe et l'Allemagne sont sous une très très forte pression.
Une toute dernière question pour vous encore, Daniela, parce que on voit comment se cristallisent les nouveaux rapports de force intra-européens, puisque Emmanuel Macron, le 9 mai, ira signer à Nancy un traité d'amitié avec la Pologne, avec le Premier ministre polonais, Donald Tusk, alors qu'en Pologne se déroule une campagne pour les élections présidentielles qui est extrêmement tendue. Vous nous avez rappelé que Friedrich Merz, le même jour, ira à Paris et à Varsovie. Donc on voit bien, en même temps qu'un rapprochement entre Londres et les principaux États européens, il y a un espèce de nouveau quartet qui se met en place et qui, en quelque sorte, muscle la façon dont l'Europe peut faire face à l'imprévisibilité du président américain.
Oui, c'est vrai. Et c'est très symbolique et à la fois très substantiel que Friedrich Merz a choisi de visiter Paris et Varsovie le même jour. On pourrait conclure que maintenant, c'est le moment du triangle de Weimar, mais à mon avis, c'est d'abord les relations bilatérales qui comptent, qui sont en partie à reconstruire, à renforcer et à rendre beaucoup plus, disons, constructif et basé sur une confiance mutuelle. Donc, cet investissement…
Vous voulez dire entre Berlin, Berlin et Varsovie, en l'occurrence.
Et Berlin et Paris aussi. Parce que la relation franco-allemande a besoin d'une confiance entre les leaders, a besoin d'une approche beaucoup plus créative pour arriver à résoudre des problèmes que l'Europe et les deux pays doivent résoudre. Et n'oublions pas que la France et l'Allemagne ensemble représentent presque 50% du PIB de la zone euro. C'est quand même un poids énorme. Et si, comme on en a dit lors de l'émission, on est dans une phase de relance économique, d'investissement. C'est une énorme opportunité de travailler beaucoup plus étroitement ensemble. Si je regarde ce qui s'est passé à Paris ces derniers mois, en matière notamment d'intelligence artificielle et les initiatives que le président français a prises, il y a une mobilisation assez forte. L'Allemagne va faire la même chose. Mais si on fait deux choses en parallèle et après on se demande est-ce que les approches sont compatibles, on perd une opportunité énorme. C'est pour ça qu'il faut réfléchir dès le début comment les énormes sommes d'investissement en Allemagne vont être investies, comment on peut, notamment en matière de technologie, de recherche, d'innovation, travailler beaucoup plus étroitement ensemble pour vraiment faire un saut en avant, parce que la question de la souveraineté technologique, c'est non seulement